Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons ensemble dans l'Écriture sainte le psaume 122. Nous lisons ensemble le psaume 122.
Qu'est-ce qui est mis comme ça ?
Chant des bontés de David. Je me réjouis quand on me dit allons à la maison du Seigneur.
Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus du Seigneur, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom du Seigneur. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix soit en toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je recherche ton bonheur. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Demandez la paix de Jérusalem. Le psaume 122, qui contient cette exhortation comme son cœur, est l'un des plus beaux à mes yeux, un des plus chers à mon cœur. Lorsque j'ai eu l'honneur de prêcher pour la fondation du Conseil national des évangéliques en France, c'est le texte qui s'était imposé à moi. Et je vous propose, sous un angle différent, de le méditer aujourd'hui en rapport avec la vie de notre Église. La paix qui est en cause, c'est la paix au sens très, très riche et très fort que le mot a dans l'Écriture. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, ce qui est déjà éminemment précieux, mais c'est aussi la bonne santé, le bien-être. Au lieu de demander en hébreu à quelqu'un qu'on rencontre « comment ça va ?», on lui demande « est-ce que la paix est avec toi ?» La paix, c'est l'équivalent de tout ce que nous mettons sous le mot de salut. La paix, c'est la plénitude. La racine du terme est apparentée à ce qui sert pour exprimer l'idée de remplir, l'idée de complétude. Donc, la paix, c'est cette richesse d'harmonie, de concorde qui fait remplir la vocation qu'on a reçue, qui permet de donner un sens plein à l'existence. C'est tout cela, la paix que Dieu nous exhorte à demander pour Jérusalem, que l'Écriture sainte nous encourage à demander pour l'Église. Alors c'est Jérusalem, est-ce que c'est Jérusalem ou l'Église ? Le premier point que nous avons à considérer, c'est le droit que nous avons d'appliquer à l'Église, c'est-à-dire de nous appliquer les paroles de ce psaume. Sans contestation possible, il vise d'abord la ville dont David a fait sa capitale, la ville qui est située à 31,47 degrés de latitude nord et 35,10 degrés de longitude est, la ville qui est sur nos cartes, la ville que certains ont peut-être visitée dans un voyage en terre d'Israël. La ville n'avait pas été durablement conquise au moment des guerres de Josué. Elle était restée peuplée d'une tribu, d'un groupe qu'on appelait les Jébusiens, et elle se situait à la limite entre la tribu de Benjamin, juste au nord, et la tribu de Juda, juste au sud. Ça a été un coup de génie, inspiré par le Seigneur, pour David, d'en faire sa capitale, de conquérir cette citadelle et d'en faire la capitale d'un royaume unifié. Car Benjamin, c'était la tribu de Saül, le roi auquel il s'était opposé, le roi qui l'avait pourchassé sans merci, et Judas, c'était sa tribu à lui. David, en faisant de Jérusalem sa capitale, unifiait tout le peuple de l'Alliance ancienne sous sa direction. La ville de Jérusalem, c'est l'ensemble de la Bible qui nous l'apprend, préfigurait la cité de Dieu qu'il instaure dans la Nouvelle Alliance et qui prend le nom alors de l'Église. Toute l'économie, tout le régime que Dieu avait établi dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, où cela signifie l'Ancienne Alliance, était un régime préfiguratif, un régime d'image qui annonçait les réalités que Dieu préparait et qui allaient advenir par l'envoi de Jésus, son Fils. Il s'agissait, le terme technique, c'est celui de type. Il s'agissait de types qui ont leur antitype, c'est-à-dire leur correspondant, leur accomplissement dans les réalités de la nouvelle alliance, celle dont nous parle le Nouveau Testament. Et Jérusalem représentait à l'avance ce que le Nouveau Testament appelle le plus souvent l'Église, mais parfois aussi Jérusalem, la Jérusalem céleste, car l'apôtre Paul, au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, parle de deux Jérusalem. Il faut bien distinguer les deux. Il y a la Jérusalem terrestre, celle des coordonnées de latitude et de longitude que j'ai évoquées il y a un instant, la Jérusalem qui a refusé de reconnaître son Messie en Jésus et qui, dès lors, s'est tournée contre son propre Dieu et est devenue hostile et persécutrice. Et puis, il y a la Jérusalem véritable, la Jérusalem d'en haut, celle que le plan de Dieu vise. Et, dit l'apôtre Paul, en parlant de lui et des autres disciples de Jésus, des chrétiens, c'est elle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Et il n'hésite pas, dans ce même chapitre de l'Épître aux Galates, que vous pourrez regarder à la maison si le cœur vous en dit, à citer une prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 54 qui vise Jérusalem. Le prophète Ésaïe vivait dans cette ville terrestre de Jérusalem. L'apôtre Paul n'hésite pas à appliquer la prophétie qui concerne l'avenir que Dieu prépare pour Jérusalem à l'Église. Très clairement, ce qui nous donne entièrement le droit d'appliquer, et même le devoir, d'appliquer à l'Église ce qui est dit prophétiquement sous le nom de Jérusalem dans les textes de l'Ancien Testament. Toute l'économie de l'Ancien Testament était faite de telles images, et David lui-même, David, est la préfiguration, le type du nouveau David, de son fils à venir, dont il a reçu la promesse, le Messie que nous avons reconnu en Jésus. Il y a un petit détail, ça devient un peu technique, mais vous allez bien saisir, un détail qui montre bien que ce psaume peut être appliqué à l'Église. Au début du livre des Actes, dans les chapitres 1 à 3 du livre des Actes, revient une formule qui est assez rare, car elle ne se retrouve que 9 fois dans tout le Nouveau Testament. 4 fois dans ces 3 chapitres seulement revient une formule, c'est 3 mots en grec, donc ça se remarque, qui est traduit généralement ensemble ou réuni ensemble dans nos traductions. Souvent, elle n'est pas traduite de la même façon chaque fois, donc on ne remarque pas sa récurrence quand on lit les traductions. Mais dans l'original, c'est frappant. Revient une expression qui implique l'idée d'union étroite. Deux autres fois dans le Nouveau Testament, elle est appliquée à des ennemis qui se liguent contre Dieu, au chapitre 4 du livre des Actes et une fois dans l'évangile de Matthieu. Et les trois autres fois sont dans la première épître aux Corinthiens, deux fois précisément pour l'Église, de nouveau, qui se réunit. Comme dans les chapitres 1 à 3 du livre des Actes, c'est pour la réunion des disciples de Jésus. Et une fois pour l'union conjugale, au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Ce qui montre ces connotations, cette expression véhicule l'idée d'une union étroite et qui caractérise les disciples de Jésus lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils sont ensemble. Or, cette expression, donc si caractéristique au début du livre des Actes, elle est employée dans la traduction grecque du psaume 122. Et les premiers chrétiens utilisaient principalement cette traduction grecque. C'était leur Bible entre les mains. Et précisément au psaume 122, la parole qui est traduite dans la version que j'ai lue, qui forme un ensemble bien uni, comme une ville qui forme un ensemble bien uni, précisément dans cette Bible usuelle des premiers chrétiens, c'était la formule qui est reprise dans le livre des Actes. Je crois qu'il y avait là, les gens savaient les textes bibliques par cœur, beaucoup plus que nous, donc il y avait là un écho perceptible pour les premiers chrétiens. Ce petit fait donc souligne que nous devons nous approprier les paroles du psaume. Elles valent pour l'Église universelle, mais aussi pour chaque concrétisation locale particulière. L'Église, c'est le même nom, l'Église universelle est représentée par les églises locales, comme notre église dite du Tabernacle à Paris. Quel est le message que le psaume met tout spécialement en valeur? C'est le message de l'union. L'union fait la force, l'union fait la valeur, l'union fait la joie, l'union fait la beauté de l'Église. Cela correspond sans doute déjà au nom même de Jérusalem. On trouve dans les textes égyptiens qui datent de presque 2000 ans avant l'ère chrétienne, déjà un nom pour cette ville qui est à peu près celui de Jérusalem, Urusalim, voilà, c'est la forme. Et elle semble signifier fondation de paix. Le nom de Jérusalem évoque déjà cette paix qui la caractérise sous la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, le nom même de Salem est aussi employé au chapitre 14 du livre des Actes, c'est le nom que porte la ville dont le Melchisédek est alors le roi, et le psaume 76 verset 3 nous montre que c'est Jérusalem. Jérusalem s'appelle de manière abrégée Salem. Et vous connaissez le commentaire que fait l'auteur de l'épître aux Hébreux, inspiré par Dieu, au chapitre 7 de son livre, quand il parle de Melchisédek, il dit, voilà, il est le roi de Salem, roi de paix. L'auteur aux Hébreux met en valeur ce sens de paix qui s'attache au mot Salem. Donc, vous voyez, nous sommes en plein dans le sujet que nous essayons de considérer ensemble. Alors, il s'agit de la paix, d'une union interne, du lien qui unit toutes ses parties, tous les membres, comme une ville dont toutes les parties sont très étroitement cohérentes, liées entre elles. Il s'agit aussi du rôle unificateur de Jérusalem pour l'ensemble du peuple. C'est là qu'est le siège du gouvernement. C'est là qu'il y a les trônes pour la maison de David. C'est là que règne celui qui assure par son règne l'unité de tous ses sujets. Et tout cela, nous pouvons le transposer pour l'Église. C'est un très grand thème du Nouveau Testament que la beauté que constitue pour l'Église l'union qui est accordée à tous ses membres. L'Église est réunie comme un seul corps. C'était le plan de Dieu d'unir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est un texte de l'évangile de Jean qui utilise cette expression. Ce qui fait l'union de l'Église, ce n'est pas seulement la communauté de croyance, elle est importante. Ce n'est pas seulement les liens affectifs qui se créent entre nous. Ce n'est pas seulement la volonté de collaborer. C'est une union surnaturelle. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même à l'œuvre dans le cœur des humains. C'est lui qui nous unit les uns aux autres pour nous constituer en un seul corps. Nous avons tous été constitués en un seul corps, baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, dit la première épître aux Corinthiens. Et on ne remarque peut-être pas assez que c'est un exaucement d'une prière de Jésus. Jésus dit au Père, je sais que tu m'exauces toujours, car Jésus prie toujours selon la volonté du Père. Or, qu'a-t-il demandé au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, dans cette prière qu'il prononce le soir même de la nuit où il allait être livré, torturé? Il demande que ses disciples soient un, comme lui-même et Dieu sont un. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, demande-t-il au Père. Il demande cette union surnaturelle, et pas seulement pour les 12 qui sont avec lui, ou les 11 plutôt, parce que Judas est déjà sorti, mais pour tous ceux qui croiront en leur parole, en mon nom. Donc nous sommes bien compris, Jésus a prié spécialement ce soir-là, du jeudi saint, pour que ses disciples soient unis d'un lien surnaturel. Et c'est ce qui s'est passé à partir de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'exaucement de cette prière de Jésus. Et c'est dans l'Église que se trouve le trône du fils de David, qui est le nouveau David, victorieux. Il règne par l'autorité des jugements qu'il a prononcés, des trônes pour le jugement du bien et du mal. Et c'est l'Écriture qui est le lieu où sont consignés ces jugements de Dieu, des jugements du Seigneur, nouveau David. Il règne à partir de son Église par sa parole. Sa parole que nous avons dans la Bible, c'est le sceptre de son règne. Ça, c'est une expression que Calvin aimait fort employer. À nous, cependant, de lutter dans ce sens. L'union ne se réalise pas automatiquement. Ce n'est pas sans vigilance ni diligence que cette union se réalise. La paix de Jérusalem dans l'Ancien Testament, elle a souvent été troublée. Et sous le règne de David lui-même, au point, vous le savez, que son fils, Absalom, a mené une révolte contre lui, que David a dû fuir la ville de David. A dû fuir Jérusalem. Il y a eu des factions diverses aussi au terme de son règne entre ses fils Adonia et Salomon, lequel allait lui succéder. La paix de Jérusalem a été souvent troublée. Et je pense qu'on doit dire, hélas, que l'unité de l'Église est toujours menacée. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'église de Corinthe, une église pourtant riche de beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, était gravement handicapée par des luttes de partis entre ses membres. Les uns disaient « Ah, moi je suis pour celui-ci, moi je suis pour celui-là, pour Paul, pour Apollos. Pour... » Et l'apôtre Paul s'indigne. « Et Christ est-il déchiré ? Mais enfin, c'est pas possible !» Mais c'est hélas ce qui arrive assez souvent. Et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, nous encourage à nous efforcer à maintenir l'unité de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui la réalise, par le lien de la paix. Nous restons sur la terre avec nos fragilités, avec notre vulnérabilité à la tentation. Je me rappelle une chose qu'a dit une fois le pasteur André Funet, qui était pasteur adjoint de cette église, le grand-père de M. Pierre Marais. Certains ont peut-être encore des souvenirs. Je me rappelle qu'une fois, le pasteur André Funet, qui habitait au dernier étage ici, hein, dans le bâtiment, a rapporté une parole d'un de ses compagnons de captivité, car il avait passé des années de guerre dans un stalag, prisonnier français en Allemagne, et là, il y avait un prêtre qui était son camarade de captivité qui disait « Partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Voilà. Pour évoquer cette vulnérabilité où nous sommes tous. C'est pourquoi nous sommes invités à prier, demander la paix de Jérusalem. Car c'est d'abord de Dieu que viendra le secours, que viendra la guérison des blessures. C'est d'abord de Dieu que viendra l'union surnaturelle. Mais il ne s'agit pas seulement de prier. Je dirais, dit la fin du psaume, que la paix soit en toi, mais je rechercherai ton bonheur. L'action doit doubler la prière. Il s'agit de déployer toute son énergie et toute l'intelligence qu'on peut avoir dans son usage pour que Jérusalem, la Jérusalem de Dieu, connaisse le bonheur ou le bien. C'est son bien. Le terme peut être traduit de ces deux façons. La prière est creuse si elle n'est pas aussi accompagnée de cette recherche. Nous sommes invités à prier pour la paix de l'Église et à œuvrer dans toutes les possibilités qui nous sont offertes dans ce même sens. Et pour cela, il y a deux mobiles, ou peut-être un troisième, deux mobiles qui sont mis en valeur par le psaume. Qu'est-ce qui doit nous pousser à rechercher la paix de Jérusalem et à la demander toujours à Dieu ? À cause de mes frères et de mes amis, dit le psalmiste. Les frères et les amis, les deux. On peut distinguer entre le lien qu'établit le fait d'être frère et puis le lien qu'établit l'amitié. L'amitié ne dépend pas tant de la nature que de l'histoire, des affinités. Et il y a un lien de nature. On peut distinguer d'ailleurs entre unité et union. Je me rappelle avoir lu une famille à son unité dans le sang, qui est commun, mais elle peut être désunie. Son union sera liée à la pratique des relations des uns avec les autres. Les deux choses sont évoquées par cette paire de termes, à cause de mes frères et de mes amis. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons reçu une même nature nouvelle, en germe encore, oui, mais nous avons reçu une nature nouvelle, Dieu nous ayant engendrés par sa parole de vérité, grâce à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Donc un lien surnaturel existe entre nous, qu'on peut comparer au lien qui lie les membres d'une même famille. Mais il y a aussi des liens d'amitié qui ont leur place, et qui peuvent être un peu variables, qualitativement, intensivement aussi. Les amis, c'est quand même souvent un peu électif. Ce n'est pas mal en soi, pourvu qu'il n'y ait pas d'ennemis que l'on rejette à ce moment-là. Mais qu'il y ait des liens d'amitié plus ou moins forts, c'est aussi normal, c'est une richesse, c'est une beauté. Jésus lui-même, parmi ses disciples, qu'il avait choisi, avait une affinité avec, il semble que ce soit Jean, qui s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait. Jésus lui-même a eu la liberté d'avoir des affinités plus marquées avec tel de ses disciples. Il les aimait tous, mais un peu différemment les uns des autres. Cela est normal, et cela est normal aussi entre nous. Nous sommes frères et sœurs liés par l'œuvre de régénération que le Seigneur a accomplie, et nous avons des liens d'amitié diversifiés qui correspondent aux histoires qui nous ont associés les uns et les autres. À cause de mes frères et de mes amis, nous voulons la paix de Jérusalem, la paix de la Jérusalem céleste et de cette colonie que nous sommes sur la terre, qu'est l'Église. Nous voulons cette paix parce que tous ces liens nous y portent. Et là, je voudrais rendre comme un témoignage. Je suis ému et vraiment encouragé, profondément réjoui de voir plusieurs d'entre vous. J'ai assez d'ancienneté pour avoir vu certains changer, d'avoir vu comment plusieurs ont embelli spirituellement à travers les années. C'est vraiment beau, très vraiment beau. Et puis, je veux mentionner aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Nous avons plusieurs frères et sœurs, en particulier des sœurs, gravement malades. Mais c'est incroyable le rayonnement de leur témoignage, la beauté de témoignage que ces frères et sœurs rendent à la grâce de Dieu. Moi, je tremble, je me dis, si jamais une maladie comme ça me tombait dessus, mais je ne serais pas... Je ne vois pas en moi les ressources pour me comporter d'une manière qui glorifie à ce point le Seigneur. Alors à cause de mes frères et de mes amis qui montrent pareille chose, je demande la paix de Jérusalem. Mais il y a un deuxième motif qui est mis en valeur. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu. À Jérusalem, Dieu a choisi de résider. C'est là qu'il a placé son tabernacle et puis son temple, et c'est là qu'il est, et c'est dans l'Église qu'il a choisi de résider. Nous sommes le temple de Dieu vivant, et nous sommes les uns et les autres des pierres vivantes de ce temple qui se construit en esprit, une habitation de Dieu. Alors bien sûr, toutes les images des types ont leurs limites, et nous sommes à la fois le temple, la cité et le peuple. Toutes ces préfigurations s'accomplissent en même temps dans l'Église. Mais nous le sommes, le Seigneur est parmi nous, c'est sa présence qui fait que nous ne sommes pas simplement un club de gens qui penseraient un peu de la même façon, que nous sommes l'Église du Dieu vivant, que nous sommes le temple de la Jérusalem céleste. C'est en lui que nous le sommes, car le premier temple, c'est lui, Jésus, et il nous incorpore à lui. Lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », il parlait du temple de son corps. Il parlait de sa mort et de sa résurrection, nous dit le début de l'évangile selon saint Jean. C'est lui qui est le premier temple et qui est le vrai Israël. Il est appelé comme ça dans la prophétie du serviteur du Seigneur en Ésaïe 49. Il est vraiment celui en qui nous sommes, ce que nous sommes. Par lui, en lui et pour lui. Le psaume, j'ai dit, entre 2 et 3 mobile, le psaume évoque encore de manière plus générale ce qui doit nous pousser à demander la paix de Jérusalem. Que la paix règne à Jérusalem, que tous ceux qui l'aiment jouissent de la tranquillité de la paix. Ceux qui l'aiment, c'est sur ce point que je termine notre méditation du psaume. Dieu aime l'Église. Le Seigneur l'a aimée au point de mourir pour elle. Le Seigneur aime tous ceux qui font partie de son Église et qu'il avait en vue lorsqu'il s'est donné pour nous. Il nous voyait d'avance. C'est par amour pour nous qu'il s'est donné. Dieu aime son Église et le rassemblement de ses enfants dans son Église. Alors, nous l'aimons en retour, même si c'est un amour infirme. Nous l'aimons en retour et nous aimons donc ce qu'il aime. Nous aimons son Église. Nous aimons nos frères et sœurs, nos amis en lui. Et nous demandons la paix, la plénitude, l'harmonie, le bien-être, la santé de son Église, qui est aussi, parce que nous en sommes notre Église, nous cherchons ensemble son bien. Amen.